Ça vaut le détour avec Luc Fortin.
On est fébrile aujourd'hui, il fait beau, c'est jeudi. Jeudi 14 mai, j'espère que vous allez bien avec Rémi Hermoso à la mise en onde, Anne-Laure Janson à la recherche, Kevin Breton du côté du support informatique. Mon nom est Luc Fortin, comme le disait Émilie. Et aujourd'hui, on est heureux de vous parler, entre autres, d'un besoin du côté de la région Abitibi-Témiscamingue. On est à la recherche de familles d'accueil. On va causer avec Isabelle du charme de ces ateliers auxquels sont invités à participer ceux qui vivent avec des maladies chroniques. 6 ateliers, 6 rencontres avec Isabelle. La première un peu plus tard aujourd'hui. Nous allons également parler de cours de natation en Mauricie, offerts à des enfants autistes et à en juger par la réaction des parents. Ça fait une différence. J'ai hâte de voir pourquoi. Et commençons par le commencement. Si vous avez peut-être entendu parler à quelques reprises du bras Jaco de la firme Kinova, firme estrienne, là, c'est du côté de la jambe qu'on se tourne avec Stéphane Bédard, qui lui est président de... Prononce-t-on, Stéphane, Bétémia?
Bétémia.
Bétémia, donc une entreprise de Québec. Et on parle de cette jambe... Kyogo, finalement, veut nous faire penser... de continuer, keep on going. Une idée qui, vraiment, a non seulement pris du galon, mais on commence même à avoir des utilisateurs.
Oui, en fait, exactement. Donc, Bétémia, une jeune entreprise de la Ville de Québec, a développé depuis 5 ans ce qu'on appelle, nous, une nouvelle génération d'appareils d'assistance à la mobilité. Donc, cet appareil est directement dédié à des gens qui sont en perte de mobilité. Mm-hmm. Donc, l'appareil est plus un appareil sur les deux jambes. C'est un appareil robotisé, motorisé. Et pour ceux qui perdent leur autonomie en mobilité pour diverses raisons, principalement des maladies dégénératives comme la sclérose en plaques, bien, l'appareil permet d'arriver à garder l'autonomie à la marche et d'arriver à avoir des bénéfices cliniques à court et à long terme.
Stéphane, pouvez-vous me faire un visuel de l'appareil?
En fait, oui. C'est une espèce d'orthèse qui entoure les jambes, de la cheville jusqu'au bas du dos. L'appareil se porte sur les deux jambes, donc c'est relié de la jambe gauche à la jambe droite. L'appareil contient des moteurs aux joints articulaires, contient un réseau de senseurs et un ordinateur qui permet d'analyser et de reconnaître les intentions de l'utilisateur lorsqu'il marche. Et il fonctionne avec une batterie. Et la beauté de cet appareil, c'est qu'en fait, l'appareil reconnaît ce que l'individu veut faire en mobilité, à la démarche, se lever sur une chaise, se descendre sur une chaise, monter les escaliers, descendre les escaliers. Et l'appareil va simplement injecter plus de force dans les jambes et va donc assister dans le bon temps la personne à marcher. Et l'objectif, en fait, de cet appareil, c'est d'assister la démarche pour que l'individu, l'usager, marche mieux et aussi marche plus.
Oui, mais j'essaie de voir, est-ce que c'est comme une culotte de hockey? Est-ce que ce sont des ganses que l'on attache autour, des cuisses, des hanches, des genoux? Est-ce que c'est... J'essaie de comprendre le fonctionnement, surtout le coup d'œil?
La première image qu'on pourrait avoir, c'est lorsque plusieurs personnes portent des orthèses aux genoux pour lorsqu'ils ont des blessures.
Oui, OK.
C'est une structure métallisée, un peu flexible, qui entoure le genou avec des courroies et permet de stabiliser l'articulation. Le Kyogo, c'est la même chose, mais
plus...
de la cheville jusqu'au bas du dos,
c'est
sur
ça.
Les deux jambes. Donc, on appelle ça souvent une orthèse pleine grandeur. Mais au lieu d'avoir que des joints articulaires passifs, comme une orthèse ordinaire, on a des joints articulaires motorisés, contrôlés par ordinateur, qui vont se mobiliser dans le bon temps mm-hmm. pour donner de l'assistance correctement. Mais c'est vraiment un genre de structure mécanique flexible qui vient entourer par des courroies les jambes. Et ça permet en fait d'avoir... C'est pour ça que le nom scientifique que l'on donne à cet appareil, c'est dermosquelette. C'est comme une seconde peau de la structure musculo-squelettique. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on assiste et qu'on arrive à redonner de la force aux individus lorsqu'ils marchent.
Une recharge est bonne pour 24 heures. J'ai vu des textes qui disaient 40 000 $, d'autres autour de 20 000. Qui dit vrai?
En fait, il y a eu un prix d'introduction l'année passée de 20 000 $ dans la province de Québec. Et présentement, le prix d'achat pour un particulier, c'est précisément 40 000 $ cette année.
Qu'est-ce qui fait qu'on a été obligé de doubler les prix ou...
Ah, en fait, c'est une stratégie d'introduction du produit, pour obtenir des premiers usagers,
des gens
qui nous permettaient, on a fait des études avec ces gens-là, donc on avait des rencontres à toutes les semaines pour arriver à récupérer leurs commentaires sur l'appareil, donc on les faisait un peu travailler.
Mm-hmm.
Donc, ça permet donc avec un achat à moindre coût, on travaillait avec eux, collaborateurs, on arrivait à, on va dire, optimiser la présence du Kyogo sur le marché.
Parlez-moi du marché que vous visez, justement.
Principalement, au niveau du médical, on vise trois pathologies bien précises qui amènent des difficultés à la démarche. La première, c'est l'arthrose au genou ou l'arthrose à la hanche. Donc, c'est la première indication. La deuxième, ce sont des gens qui sont atteints de sclérose en plaques. Et la troisième, ce sont des gens qui sont atteints de Parkinson. Donc une maladie, trois maladies dégénératives, une associée aux articulations et deux autres au système neuromoteur. Donc, le Kyogo peut aider, en fait, toutes les personnes, indépendamment de la cause, qui ont de la difficulté ou qui perdent leur autonomie à la démarche. On a visé ces trois indications principales pour se concentrer sur ces populations-là. Mais on a aussi d'autres clients, d'autres usagers de l'appareil qui n'ont pas ces maladies, mais qui sont en perte de mobilité.
Oui, on parle d'armée canadienne, entre autres. Mais je reviens là à ceux qui nous préoccupent davantage. Est-ce que c'est un appareil qui va retarder l'inévitable, c'est-à-dire le fauteuil ou le triporteur, ou même les gens qui aujourd'hui sont peut-être en triporteur pourraient espérer retrouver une certaine forme d'autonomie, de mobilité debout?
En fait, ce que l'on fait, c'est qu'on assiste l'incapacité à la démarche. Oui, en fait, on ne guérit pas la pathologie, c'est bien sûr. Mmh. Ce que l'on fait, comme c'est prouvé, lorsque la personne atteinte de maladies dégénératives bouge plus dans la journée et surtout ça donne à marcher beaucoup plus. C'est prouvé que ça permet de réduire la vitesse de progression de leur maladie. Alors, ce que l'on fait avec le Kyogo, c'est qu'on maintient cette capacité à la démarche et ça permet à long terme d'extensionner la qualité de vie de l'individu. Mais il y a aussi des bénéfices cliniques à court terme. Donc, lorsqu'on marche plus, la santé est meilleure.
C'est vrai.
Et la santé psychologique aussi embarque par la suite, ou même en même temps, ou même avant. Donc, quand les gens se sentent plus actifs, plus utiles dans la vie, bien, le côté positif embarque un peu plus. Plutôt que de se voir sur une pente descendante, les gens se voient sur une pente beaucoup plus nulle et même des fois ascendante, parce qu'ils revivent un peu avec l'appareil. Ils refont des activités qu'ils n'ont pas faites depuis longtemps.
Ouais.
Il y a des gens qui retournent à la montagne, il y a des gens qui vont retourner au golf. Et la beauté de l'appareil, en fonction de la concurrence, c'est que l'appareil, on marche de la même manière que sans l'appareil. Donc, la flexibilité à la démarche, elle est quasi transparente et ça permet de faire à peu près n'importe quelle activité.
L'entretien, les réparations, les pièces, les coûts, c'est facile?
C'est mineur et non significatif. Okay. En fait, l'appareil est très, très fort structurellement. En fait... je pense que les personnes vont aller plus souvent voir leur clinicien d'un point de vue clinique que d'un point de vue mécanique, en fait. Donc, on est en arrière de ça.
Stéphane Bédard est président de Bétania, une entreprise dont, entre autres, le Kyogo est le phare de lance. Est-ce qu'il y a d'autres produits chez Bétania qui pourraient peut-être éventuellement voir le jour ou...
En fait, la technologie, elle est partie d'un besoin militaire de protéger nos soldats d'opération contre les blessures musculo-squelettiques. Donc, Bétania, en parallèle, développe d'un point de vue militaire cette technologie pour assurer une certaine santé biomécanique aux soldats. C'est le second produit que nous développons et par la suite, on veut beaucoup plus adapter l'appareil à différentes pathologies dans les prochaines années pour arriver à devenir les leaders au niveau de l'assistance à la mobilité. Bon, présentement, c'est le plan stratégique qu'on s'est donné pour arriver à bien optimiser cette nouvelle invention à travers le côté médical.
Stéphane, y a-t-il des plans de financement? Y a-t-il, je ne sais pas moi, une façon, parce que bon, 40 000 $ tout le monde ne l'ont pas tout de suite, même si on va à la banque faire un prêt, c'est pas dit que le banquier va être d'accord?
Oui. En fait, nous avons des plans de location aujourd'hui qui peuvent être utilisés. Donc, on peut louer l'appareil par mois sous un principe de louer une voiture. Mais on travaille présentement avec les compagnies d'assurance privées et gouvernementales pour arriver à ce que très rapidement, l'appareil soit remboursé par les principales compagnies d'assurance, donc dans le secteur public et également du secteur privé. Donc, c'est un travail qu'on doit faire présentement cette année. C'est prévu. Ça prend quelques temps,
oui.
Mais l'objectif est réellement d'obtenir un remboursement clair de ce produit, étant donné qu'il y a beaucoup de bénéfices socio-économiques très flagrants que l'on peut démontrer dans les prochains mois.
Là où il y a difficulté et qu'Innova s'en rencontre avec Jaco, c'est que l'ARAMQ ne veut pas aider partiellement. C'est du tout ou rien. Ouais. Et malheureusement, avec cette philosophie-là, ben, trop souvent, on dit comme c'est coûteux et que c'est tout ou rien, ben c'est rien. Alors qu'il y aurait peut-être lieu de trouver un compromis. 40 000, la technologie évolue, on le sait. On ne sait pas, nous, ce que la prochaine génération de Kyogo dans 3, 4 ou 5 ans offrira. Il me semble qu'il y aura un intérêt à le louer, justement.
Oui, en fait, nous avons déjà des programmes et des plans de location ça fait partie principalement de la business de Bétenia, donc d'offrir parce que...
Mais je sais que vous l'offrez, mais y a-t-il un intérêt à l'acheter? Parce que je sais, là, vous m'aviez dit qu'on pouvait louer, mais qui veut acheter finalement, étant donné la mise à jour possible?
Bien, en fait, ça dépend de la pathologie. Des gens qui se sentent dans un contexte dégénératif vont plutôt être portés à le louer parce qu'ils ne connaissent pas leurs conditions dans les prochains mois, plusieurs années. Ouais. Des gens qui sont atteints d'arthrose du genou savent que dans les 15 prochaines années, ils vont pouvoir peut-être se faire offrir une opération. Donc, c'est pour du long terme, eux autres. Donc, dans ce contexte-là, étant donné qu'on est capable de mettre à jour l'appareil, il y a des plans de mise à jour lorsqu'on achète l'appareil, il y a des gens qui sont portés à vouloir acheter l'appareil pour les 5 prochaines années, en fait. Et c'est moins coûteux à ce moment-là. Ouais. Donc, présentement, il y a une dépendance au niveau du type de pathologie qui permet de décider si on l'ajoute ou on le loue.
Intéressant. Merci beaucoup. Toutes les informations, de toute façon, seront sur la page de Ça vaut le détour. Le courriel, les numéros de téléphone pour joindre Bétenia et en savoir davantage. Je vais même demander à Kevin, là, il y a sûrement une petite vidéo quelque part où, si moi je vois pas, il y en a peut-être d'autres qui peuvent mieux comprendre en voyant leur thèse, le Kyogo en question. Merci beaucoup, Stéphane Bédard.
Ça fait plaisir.
On va se tourner vers une piscine du Parc Laurier en Chanson pour ensuite aller en Mauricie parler, entre autres, à Sarah, Sarah Pierre, a décidé d'offrir des cours aux jeunes enfants autistes. D'abord, pourquoi? Et deuxièmement, ça fonctionne-tu?
Un petit homme saute à la piscine pour la toute première fois
avec son papa, avec son papa.
Mon oreille capte une engueulade, je sais pourquoi.
Les voisins d'en bas.
Les autos patientent. Comme le célibat. Un petit homme, sa moiselle, se m'amoure comme des petits chats.
Pas besoin d'un bal, d'un calorieux.
Sa menotte rigodonne à toutes sortes d'endroits.
Ta poème
m'attend, c'est un adresse.
Daniel Boucher sur Canal M et sur canalm.org. Est-ce que je peux saluer la maman de Jérémy, Chantal Girard? Pas de nouvelles de la maman de Jérémy. Bon. Ah ben là, bonjour maman Jérémy.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, vous-même.
Oui, merci, c'est gentil. Chantal Girard, donc, maman de Jérémy, qui a 6 ans et demi et qui est un des élèves de Sarah-Pierre Guévin. Sarah, qui a 19 ans, elle, et qui était... C'est la dernière fois de votre vie, Sarah, que quelqu'un dit votre âge, parce qu'on le sait, c'est pas délicat. Vous êtes étudiante en enseignement adaptation scolaire. Vous êtes également sauveteuse à l'École nationale de police de Nicolet.
Oui.
J'ai avis avant, Sarah-Pierre, que vous m'expliquiez ce que vous faites avec les jeunes. Poser la question à Chantal Girard, pourquoi un cours de natation pour enfants autistes? Pourquoi pas l'envoyer dans une piscine, dans un groupe régulier?
En fait, mon garçon, on a déjà essayé avec des cours réguliers.
Oui.
Puis c'est difficile parce que c'est un enfant qui ne se sent pas interpellé par les consignes de groupe. Donc, pour lui, les grosses piscines aussi, c'est difficile parce que c'est très bruyant, avec beaucoup d'enfants qui crient en même temps. Donc, c'est trop de stimuli.
Ouais. Et l'hypersensibilité également est,
oui,
disons, mise à contribution là, un peu trop. Là.
Exactement. Trop, ouais. trop de stimuli sensoriels, c'est plus difficile de capter l'attention de Jérémy à ce moment-là.
Sarah-Pierre, qu'est-ce qu'un cours de natation pour enfants autistes?
En fait, c'est d'intégrer des techniques de secourisme afin qu'ils puissent se débrouiller dans la piscine le plus autonome possible. S'il est pour arriver un accident ou qu'ils sortent de la maison puis qu'ils ont envie de sauter dans la piscine, mais mon but, moi, c'est qu'ils puissent se débrouiller pour nager et se rendre sur le bord de l'eau. Donc, vraiment apprendre les bases puis les sensibiliser aux dangers peut avoir alentour d'une piscine, puisqu'on sait que c'est une des causes premières de décès chez les jeunes enfants autistes.
Est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà? Parce que j'ai lu ça, moi aussi, et je me disais, j'espère que Sarah-Pierre n'est pas la première à examiner ce problème-là, étant donné sa prévalence.
Oui, non, je ne suis pas la première. Il y en existe dans la région de la Montérégie. Par contre, je suis la seule qui offre un cours, à ma connaissance, au Québec, là, de vraiment une heure avec le même groupe d'enfants. Mm-hmm. Souvent, c'est des séances de 10 minutes qui sont offertes soit par semaine ou aux deux semaines. Puis, il y a la présence d'une intervenante aussi, tandis que moi, il y a vraiment juste moi, mes élèves ainsi que leurs parents.
Des groupes de combien d'enfants?
5 enfants, oui.
Jérémy... avait-il envie d'essayer une deuxième fois des cours de natation, Chantal, où il a fallu, disons, travailler fort du coude?
Ah non, Jérémy, en fait, demandait, ça faisait plusieurs mois qu'il me demandait de faire des cours de natation, mais consciente des problématiques, j'arrivais pas à me résoudre à l'inscrire dans un cours régulier. Avec les expériences qu'on avait vécues. Donc, quand j'ai vu l'annonce de ce cours-là, évidemment, je me suis dépêchée d'appeler pour avoir la place, là.
Sans avoir vu, parce que ça a démarré le 7 mars dernier, donc c'est tout nouveau, sans avoir vu Sarah-Pierre à l'œuvre, sans avoir mis à l'épreuve, tu sais, des fois, on attend un an, on regarde comment ça va, on parle à des parents. Vous aviez décidé, sans mauvais jeu de mots, on plonge.
Oui, effectivement. En fait, ben, je voyais le potentiel, là, un groupe restreint avec l'appui d'Autisme Mauricie aussi. Donc, je voyais la possibilité, là, d'avoir quelqu'un qui est conscient des problématiques que ces enfants-là présentent, puis d'avoir aussi un groupe qui est adapté puis qui est au même niveau que mon garçon, là.
Combien de semaines le cours, Sarah-Pierre?
10 semaines. On termine samedi.
Est-ce que c'est maintenant, c'est peut-être un peu tôt, mais avez-vous déjà une petite idée? Avez-vous commencé à faire un petit post-mortem pour voir comment on reconduirait le même genre de cours à l'automne?
Oui, on a déjà beaucoup de demandes. En fait, à l'automne, on veut agrandir, donc à offrir à plusieurs groupes. Pour l'instant, j'ai seulement un groupe d'une heure, donc mon but, c'est d'en avoir trois à l'automne. Puis je vais aussi avoir des partenariats avec les écoles de la région de la Mauricie. Donc, je vais offrir des cours de natation durant les heures scolaires, que la classe va pouvoir se déplacer puis venir suivre mon cours durant la semaine. Donc, ça, c'est d'autres possibilités qu'il va avoir à l'automne.
Et parle-t-on encore d'enfants autistes? Parce qu'il faut garder les groupes restreints, là.
Oui, exactement. Donc, ma première clientèle, c'est les autistes. Mon expérience est vraiment concluante pour le moment. Donc, c'est certain que je vais prioriser cette clientèle-là, ouais. Mais je ferme pas les portes à la déficience, par exemple, intellectuelle, moteur ou autre de ce genre.
Ça a été long, mettre ça de l'avant, avoir les soutiens nécessaires, tant de la piscine que d'Autisme Mauricie.
Oui, ben c'est depuis septembre que les démarches se sont faites, puis le cours a commencé en mars. Donc, le plus difficile, ça n'a pas été la réponse d'Autisme Mauricie, parce qu'ils m'ont répondu une semaine après, mais ça a été de trouver une piscine, trouver un endroit parfait, si on peut dire, pour les enfants autistes. Donc, un petit endroit, une petite piscine, où on est juste notre groupe à nous, une intimité. Donc, aussi, on veut chercher un endroit à bas prix, qui avait une disponibilité le samedi matin. On avait quelques contraintes, mais on a fini par trouver notre piscine.
Ouais.
Puis aussi, et au niveau du matériel, que c'était plus difficile parce que ça rend les cours plus attrayants pour les enfants quand on a du matériel aquatique. Donc, on a réussi à avoir une commandite au milieu de la session du parc Club Piscine.
Mais oui, ben oui. On aime ça quand le privé s'installe dans ce genre de truc-là. Sarah-Pierre Guévin, donc, qui est monitrice, enseignante, comment on dit ça, prof de natation, sauf...
Oui, monitrice de natation,
ouais,
ça va.
et Chantal Girard, donc maman de Jérémy, un des élèves des nageurs. Est-ce que, Sarah-Pierre, vous parlez aux parents et ensuite les parents parlent aux jeunes? Parce que même si c'est un petit groupe, Chantal le disait, c'est pas toujours évident d'avoir leur attention.
Oui, en début de cours, j'ai toujours une partie que je suis toute seule avec les enfants dans la piscine. Donc, le plus possible, j'essaie de m'adresser à eux. J'essaie qu'ils développent aussi leur attention, c'est-à-dire que quand qu'une personne parle, on l'écoute, on la regarde. Donc, c'est des techniques, des habiletés sociales qui se développent dans mon cours aussi. Puis, lorsque j'intègre les parents dans la piscine, c'est certain qu'il y a plus d'excitation. Le jeune interagit avec son parent. Donc, je les consigne, je les adresse plus aux parents parce que les activités deviennent plus complexes quand le parent est dans l'eau.
Chantal, est-ce que le défi principal, c'est de mettre de l'eau sur la tête, de mettre la tête dans l'eau?
Un peu tout ça, je dirais, parce que mon garçon avait quand même une bonne peur de l'eau. Qui a apprivoisé avec le temps, je dirais, mais il est parti quand même avec une bonne peur de l'eau. Puis on est rendu au dernier cours, on a été en mesure de lui mettre la tête complètement dans l'eau à plusieurs reprises. Puis cette semaine, il me disait « Maman, j'aime ça mettre la tête dans l'eau. »
C'est, je veux dire, ça semble banal pour nous de laver les cheveux de nos enfants, mais j'imagine que ça va faciliter cette opération-là.
Oui, oh oui, parce que dans le fond, on part de... Tous les enfants ne sont pas pareils, évidemment, là, mais le mien avait une peur bleue de l'eau plus jeune. Donc, on est parti d'un enfant pas capable de laver les cheveux couché dans le bain à un enfant qui se met maintenant la tête dans l'eau.
Ouais.
Puis beaucoup, beaucoup d'évolution au cours des 10 dernières semaines. Là.
Est-ce que ça pourrait aller plus loin que ça, en ce sens, il développe une estime de lui-même plus grande, une confiance peut-être, disons, en l'idée d'essayer de nouvelles choses.
Oui, oh oui, parce qu'il est très fier de lui. En tout cas, moi, je peux témoigner pour mon garçon. Il est extrêmement fier de lui puis des réalisations qu'il a fait d'annoncer à son papa qu'il est maintenant rendu avec juste un petit hippopotame, un flotteur, puis que bientôt, il n'en aura plus du tout besoin. C'est vraiment une fierté pour lui. Là. Il est content de faire ces cours-là.
Et on a commencé avec combien d'hippopotames?
Avec 6.
Oh là là! Et Sarah-Pierre, comment on a réussi justement cette diminution-là? Et est-ce que au départ, c'est difficile parfois de convaincre les jeunes de diminuer les accessoires pour se faire confiance?
Oui, en fait, il faut pas trop leur dire. C'est un petit hippopotame, c'est un petit peu mental. Donc, partir du 6 au 5e, c'est pas si pire. Mais ensuite, je commençais à m'adresser aux parents. J'essayais de prendre le parent quand il rentrait dans le cours, disant « OK, aujourd'hui, Jérémy, il va avoir 3 hippopotames. » Donc, on diminue. Chantal le demandait souvent à Jérémy. Jérémy répondait bien. Par contre, j'ai un autre petit garçon dans mon cours que lui, c'était mieux de pas lui dire. Mm-hmm. Donc, lui, c'est beaucoup mental. Il a besoin comme de toutes ses hippopotames. Puis finalement, on en est rendu à 3 là, avec ce jeune garçon-là. Jérémy, c'est mon plus avancé.
Mais on dit souvent que les enfants avec un TSA ont un confort avec la routine. Donc, en changeant leur routine d'une semaine à l'autre, c'est de se tirer dans le pied, non?
Au niveau d'enlever les hippopotames, un à la fois, non, parce qu'ils gardent la ceinture alentour de leur taille, donc okay. Ils ont l'impression qu'ils flottent. Par contre, au dernier cours, ben oui, je me suis peut-être tirée dans le pied un petit peu. J'ai fait l'expérience, j'ai demandé à chaque enfant à la fin du cours d'enlever leur hippopotame au complet, de rester à côté de leurs parents. Donc, je voulais voir comment ils étaient habiles, comment ils se sentaient. Puis ça en a déstabilisé quelques-uns, là, je peux vous avouer, oui.
Est-ce que vous pensez quand même... pas suffisamment pour qu'il ne se présente pas au dernier cours?
Non, je pense pas.
Donc, c'est samedi qu'on va voir comment ils vont réagir peut-être à la possibilité de continuer sans hippopotame ou en remettre un ou quelque chose comme ça.
Oui, exactement.
Bien, vous pouvez être assez fier de vous, fier de l'initiative. Et bravo, j'espère que ça va faire des petits. Sarah-Pierre Guévin, donc, instructeur... entraîneuse, natation. Et Chantal, merci beaucoup d'avoir été là, partager l'expérience comme maman de Jérémy. Je suis bien content pour vous et ça a été un beau moment. Je trouve ça le fun de commencer l'été en sachant que l'eau va être moins un problème pour 5 enfants.
Oui.
Salut à vous deux.
Merci.
Bye-bye.
Au revoir.
On cause avec Isabelle Ducharme tout de suite après la pause.
Ça vaut le détour.
Bonjour, Isabelle. Dites bonjour.
Bonjour. Je suis désolée, j'avais pas vu la lumière rouge.
Mais pas habitué. Quand la lumière rouge allume, on parle dans le micro. On est content que vous soyez là, d'autant plus que ça fait longtemps qu'on pense à offrir ce contenu. Évidemment, bon, ce sera des petites présences. C'est loin d'être les ateliers... que vous animez, vous, en tant que formatrice depuis 6 ans, vous donnez ces 6 ateliers-là d'autogestion, de maladies, de douleurs, de difficultés. C'est en lien avec le CUSUM. Et peut-être nous parler un petit peu de la clientèle avant même là, qu'on aille vers le contenu.
Oui, certainement. D'abord, j'aimerais quand même mentionner que c'est un programme qui part de l'Université de Stanford, donc qui a fait ses preuves à l'international, pas seulement ici. C'est un programme qui est offert à toute personne qui vit avec une maladie chronique ou une condition chronique. Donc, ça peut aller de la personne qui a des problèmes de cœur, de poumons, arthrite, des blessés médulaires comme moi, et également aux conjoints de conjointes de ces personnes-là. Donc, ça aide aussi la personne qui vit avec une personne qui a des conditions chroniques et qui veut mieux comprendre la situation.
Des groupes de...
Entre l'idéal, c'est entre 10 et 12 personnes. Mm-hmm. On accepte jusqu'à 15.
Incluant les proches, là?
Oui.
OK.
Absolument.
OK.
Les proches sont qui vont participer seront considérés là, comme un
comme des personnes.
Comme un partisan, un participant à temps plein et non comme un stand-by.
Oui. Et la durée des ateliers?
Chaque atelier dure 2h30. Mm. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a offert le matin, l'après-midi et le soir, dépendant des gens. Il y a des gens qui sont plus performants ou plus faciles d'écoute le matin, d'autres que ça va être le soir. Donc, il y a des gens qui travaillent, donc ça va être plus facile le soir. Donc, il y a vraiment une flexibilité dans les heures. Par contre, quand on s'engage et qu'on commence, c'est vraiment pour les 6 ateliers à la même heure, le même jour de la semaine.
À quoi peut-on s'attendre? Pourquoi prendre ces ateliers-là? Qu'est-ce que ça fait dans ma vie et qu'est-ce que ça ne fait pas?
Ce que ce n'est pas, c'est un groupe de soutien. Quand on va dans un groupe de soutien, on choisit entre nous les sujets, on en discute un peu comme ça nous tente, de la façon dont on est le plus à l'aise. Dans un programme comme celui-ci, Ce sont des sujets fixes avec des méthodes qui ont fait leurs preuves. Donc, on ne peut pas déroger du contenu qui est prévu à chaque séance. Il y a un ordre qui est prévu, il y a des structures qui sont prévues, justement pour s'assurer que tout le monde reçoit le même matériel de la même façon. Le programme, moi, ce que je trouve qui est vraiment bien, c'est qu'il est toujours donné par deux animateurs et deux personnes qui vivent avec des conditions chroniques. Donc, ce n'est pas un médecin qui vient parler et dire ce qu'on devrait faire, mais bien des gens qui ont vécu, qui ont d'abord suivi eux-mêmes l'atelier et qui sont à l'aise et croient au programme et ont vu les preuves de son efficacité. Donc, on a une meilleure écoute, certainement, quand c'est des gens qui sont dans la même condition que nous, qui viennent nous parler, que quand c'est un professionnel qui a l'air de parler d'une théorie qui devrait fonctionner.
J'imagine qu'il y a des principes généraux à l'autogestion?
Oui. D'abord, quand on met la table, là, dès le premier atelier, dans la présentation du programme, on explique que il faut être rendu là, donc il faut réaliser qu'on veut changer quelque chose et il faut être prêt à travailler sur soi-même. Il faut réaliser que dans la qualité de vie, dans l'amélioration de la qualité de vie, ça vient de nous. Donc, il faut que nous, on soit prêt à travailler sur nous-mêmes et à suivre justement ces étapes-là.
Et quels sont ces principes-là d'autogestion? Oui, OK, il faut s'impliquer, mais j'imagine qu'il y a des... appelons ça des trucs ou des...
Oui, en fait, je vais dans les... Aujourd'hui et dans les 5 prochaines rencontres que nous aurons, vous dire ce qu'on discute à chaque séance. Donc, dans la première séance, là, je vous ai déjà mentionné qu'on fait... On met la table. Mm-hmm. Ensuite, quand on fait le tour de table, on comprend vite que peu importe notre condition, on a un peu les mêmes préoccupations. C'est-à-dire que la personne qui a un problème d'arthrite, la personne qui a un problème de cœur, ce qui revient régulièrement, c'est un sentiment de ralentissement dans les activités, un entourage qui nous comprend un peu moins bien, un sentiment de perte de qui on était. Donc, on va travailler sur plusieurs outils qui vont nous aider avec ces difficultés-là. Donc, on va parler autant de communication, de techniques pour relaxer, de comment on va aller du sommeil, de vraiment une variété d'outils. D'ailleurs, dès le premier atelier, parmi les activités qu'on va faire après s'être présenté et tout ça et avoir mis la table, c'est de parler de techniques de distraction. On va parler de méthodes pour avoir un meilleur sommeil réparateur. Puis, on va mettre tout de suite en action la personne en ayant préparé un plan d'action. Et là, le plan d'action, il est vraiment au cœur de ce qu'on doit faire pour se prendre en main. D'ailleurs, c'est le seul sujet qui revient à chaque séance.
Ça veut donc dire qu'il y a des similitudes, que même si chacun arrive avec son problème chronique, si on a un plan d'action, à moins qu'il soit personnel ou individuel?
En fait, le plan d'action, c'est vraiment personnel.
Ah, okay.
C'est vraiment quelque chose que moi, je veux faire pour améliorer ma situation à moi. Par contre, on se rend compte rapidement que dès qu'on parle de problèmes de sommeil, pas mal tout le monde autour de la table a ce problème-là. De problèmes de vouloir faire une activité puis d'avoir de la difficulté à la faire, à se concentrer, bien là, quand on parle de « je veux faire une activité, j'ai de la difficulté », peut-être que juste de se rasseoir, de prendre une petite technique de distraction pendant quelques minutes, oups, je retrouve l'énergie que j'ai besoin pour faire cette activité-là. Ça, c'est on se rend compte assez rapidement que peu importe le problème de santé qu'on a, c'est un problème qui est récurrent. Fait que dans les façons de donner l'information, c'est pas mal la même pour tout le monde. Par contre, le plan d'action, est-ce que, si vous voulez, on peut tout de suite passer à travers les grandes étapes d'un plan d'action? Mais d'abord, justement, ça le dit, un plan d'action, ça doit être une action. Donc, je peux avoir un un plan global qui est « je veux maigrir ». Mais ça, c'est très global, c'est pas une action. Alors, on dira à la personne, maintenant qu'on sait que tu veux maigrir, bien, qu'est-ce que tu penses qui pourrait t'aider? Alors, la personne peut dire, bien, c'est vrai que moi, je mange des chips à tous les après-midi. Alors, ton action pourrait être de dire, bien, pour la prochaine semaine, une journée sur deux, je ne mangerai pas mes chips. Je vais manger une pomme en après-midi à la place. Donc, ça, c'est une action. Le quand, c'est une journée sur deux. Et ensuite, on va leur demander, mais quel est ton degré de confiance? Si la personne me dit, bien, moi, j'ai un degré de confiance de 5, puis que le degré de confiance, c'est de 1 à 10, bien là, on sait qu'elle n'est pas vraiment confiante qu'elle va réussir. Fait que là, on va peut-être lui dire, peut-être que tu t'en demandes trop. Est-ce que ça peut être, je vais le faire au moins une fois dans la semaine? Mais généralement, le degré de confiance va augmenter un peu.
Mais donc, j'imagine également que tout dépend de l'objectif et de la précision que l'on donne à notre objectif de départ. Maigrir, c'est une chose. Maigrir de combien de livres, ensuite, va peut-être teinter ma confiance ou mon manque de confiance.
Absolument.
Ouais.
Tout comme, je sais pas, moi, quelqu'un qui me dit, ben je vais être plus en forme, puis il va me dire, ben je vais aller courir 1 kilomètre deux fois dans la prochaine semaine. Ben ma première question va être, est-ce que tu cours déjà?
C'est ça, c'est quand dernière fois que tu... Oui, oui, c'est
si
ça.
La personne, elle me dit, ah, mais il y a 5 ans, je courais 1 kilomètre, mais j'ai pas couru depuis, mais c'est certain qu'on va, on va lui dire, écoute, je pense que ton objectif est peut-être un peu exagéré, puis tu réussiras pas. Puis on veut pas que personne se décourage non plus. On veut que les gens y croient que c'est possible.
Ce plan-là, on le règle la première semaine et on y revient ou on l'étoffe de semaine en semaine pour quitter l'atelier avec un plan en bonne et due forme?
On peut reprendre le même plan parce que ce qu'on se rend rapidement compte, c'est d'avoir à revenir la semaine suivante et d'en parler de ce plan-là, déjà, ça engage les gens plus que de juste le faire dans sa tête.
Ouais.
Et on en discute avec eux. Et là, si ça a bien été, parfois, ils en choisissent un autre. Des fois, ils disent, ben moi, je veux vraiment l'intégrer. Donc, ils le reprennent pour la semaine suivante. Parfois, ils en choisissent un nouveau. Généralement, on va dire, choisissez peut-être quelque chose qu'on a discuté pendant la séance. À ce moment-là, si on a parlé de sommeil, bien, peut-être qu'ils vont essayer des nouvelles techniques pour mieux dormir la nuit puis se sentir plus en forme et plus actif la fois d'après.
Mais en même temps, il y avait aussi dans vos commentaires d'introduction des choses moins tangibles comme « je me sens moins compris de mon entourage », je me sens un peu diminué parce que peut-être que je ne peux pas garder mon emploi ou... ça aussi, on inclut ça dans le plan?
Oui, je reviendrai là, quand on parlera d'une autre session. Là. À la première, on essaie de mettre un peu plus la table tranquillement, de ne pas trop stresser les gens. C'est pour ça qu'on parle de plus de sommeil et aussi de comment... des petites techniques de distraction. Là. Quand ça va moins bien, là, ben peut-être que, juste pour vous donner un exemple, une technique de distraction rapide pourrait être je pars de 100 et je compte à rebours arrière en sautant par 3, donc 197, 94. Déjà là, on se concentre moins sur la douleur ou sur l'inconfort qu'on a au moment, on pense à autre chose. Et là, au lieu d'amplifier la douleur en pensant juste à la douleur, bien, on relaxe un petit peu, puis après ça, on est prêt à repartir sur l'activité qu'on était en train de faire.
Parce que la douleur est passagère.
Oui, parce qu'en fait, plus on se rend compte, c'est que plus on se concentre sur la douleur ou plus on pense à comment on a mal, plus on a mal.
Ah oui.
Tandis que si on pense à autre chose, à un moment donné, les muscles se détendent et ça peut nous aider, évidemment, là, à se sentir mieux par la suite. Ce qu'on appelle notre cercle vicieux, d'ailleurs, je pourrais peut-être vous expliquer là, un petit peu plus la prochaine fois, là. Si on a le temps.
Rémi, c'est quand la dernière fois que vous avez compté à partir de 100 à 3 par 3? Hein? Je me souviens pas la dernière fois que j'ai fait ça. Mais je vais y penser. D'ailleurs, il va falloir essayer de trouver une façon peut-être d'inclure tout le monde. En ce sens, il y a sûrement des trucs là-dedans qui peuvent servir à tout le monde. Vous nous le direz, Isabelle, au gré de nos rencontres, qu'est-ce qui est peut-être spécifique aux gens à qui s'adressent ces ateliers, mais qu'est-ce qui pourrait peut-être nous servir à tous et à toutes? Je suis désolé, c'est déjà une minute de plus que ce que on avait alloué.
D'accord.
Puis je sais qu'il y avait encore du contenu, mais ben heureusement, on a encore d'autres occasions. On m'a demandé du Serge Lama. Alors, voici du Serge Lama. Et ensuite, ben, on va aller faire un petit tour en Abitibi-Témiscamingue. Apparemment qu'on est à la recherche de familles d'accueil. Isabelle, l'atelier vient tout juste de se terminer. Est-ce qu'il y en a l'été?
Non, ça va recommencer okay. À l'automne.
Donc, il n'y a pas lieu de s'inscrire tout de suite?
Oui, parce que quand même, il y a beaucoup de gens qui veulent avoir. Et nous, ça nous permet de planifier nos ateliers.
On fait ça où?
MyToolbox.
Ah oui,
mygill.ca.
OK. mytoolbox.mygill.ca. Si jamais vous ne savez pas comment Toolbox, ben allez sur la page du Ça vaut le détour, la polonaise.
Mon ardente, ma polonaise, ce bouquet de roses tendues, par-delà la foule mauvaise, Marie, ton regard suspendu, sous la glace de ton ascèse inaccessible, moi, je sens que sous ta peau coule la braise rouge de ton sang, Marie. J'ai peur, Marie merveilleuse, je veux graver mes lèvres en rouge sur ton mon ardente, ma polonaise, ah, j'ai décimé tes bijoux, j'ai brisé ma montre et la chaise, et je suis tombé à genoux. Enfin tes lèvres que je baise, enfin ton ventre que je cloue. Pardonne-moi, ma polonaise, je suis affamé comme un
Serge Lama sur Canal M et sur canalm.org. Pas de chance, on n'arrive pas à joindre Julie Chabot. On m'a demandé dans le casque d'écoute de faire du temps. C'est comme ça le direct. Et ben, ça me donne une occasion de, entre autres, vous parler du Ça me regarde d'hier soir qui est en rediffusion aujourd'hui. Je crois que c'est à 15h30 et 18h30. Et c'est vrai que l'animateur a aimé l'émission hier. Je l'ai regardé un bon bout de temps. Marie-Josée Taillefer m'a gardé là. C'était une belle rencontre lorsque j'avais reçu Marie-Josée. Je le sentais dans mon cœur, mais ça a bien passé. Si la communauté sourde vous intéresse, je pense que c'est une belle demi-heure à regarder sur Ami Télé. Également, si vous avez envie d'entendre Patrice Roy, qui s'expliquait suite à l'entrevue avec Laurent Morissette, vice-président du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. Ce matin, il était donc, Patrice Roy, chez Catherine Perrin, et il a un petit peu expliqué comment ils ont abordé le sujet de la terrasse chez Alexandre, que, évidemment, oui, ça a suscité des réactions, et tant mieux. Il a escamoté, par contre, la dernière petite phrase. Moi, c'est ça. Personnellement, je vais vous avouer que je n'ai pas trouvé que c'était une entrevue si décourageante que ça. Ça, c'est mon point de vue. Sauf la dernière remarque où il a essayé de faire une blague de mauvais goût en disant que finalement, avec ça, ça risque de fermer la terrasse. Donc, on aura de la place pour passer parce que ça va peut-être même fermer le restaurant. Et ça, c'était... Mais il n'a pas abordé ça avec Catherine et Catherine ne lui a pas posé la question sur cette dernière remarque. Mais si jamais ça vous tente, je vais demander à Kevin de mettre peut-être un lien sur la page du Ça vaut le détour pour que ce soit plus facile pour vous que le fameux audiophile qui n'est pas toujours simple sur la page d'ici radiocanada.ca/première. Sinon, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? Ça m'arrive souvent ces temps-ci à Canal M. On n'a pas de chance avec nos invités. Donc, oui, non, je sais que vous travaillez. On me dit dans le casque d'écoute qu'on travaille. Moi aussi. et si vous avez, envie, il y aura le 4 juin prochain un lancement de ce projet à la porte dont nous ont parlé dans le passé Kevin et ses acolytes, entre autres Michael et Renaud, je crois, si je me souviens bien. Et ça sera lancé officiellement le 4 juin. On va en reparler avec ces gens-là dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Et on va également vous dire où voir tout ça, 68 portraits d'utilisateurs du transport en commun régulier et comment le manque d'accessibilité de ces stations de métro-là leur cause des ennuis. Donc, on vous en reparle. Bonjour, Julie Chabot.
Bonjour.
Chabot ou Chabot?
Chabot.
Chabot, allons pour Chabot. Vous êtes conseillère en gestion du programme ressources de type familial.
On me dit que exactement.
Depuis 20 ans?
Oui, effectivement, je travaille avec les ressources de type familial depuis plusieurs années. Donc, je connais bien le programme, je connais bien les besoins également.
Mais sans vouloir être racoleur, je vous donnerais 32 ans. Alors, vous avez vraiment commencé de bonne heure. Vous êtes au centre...
Si vous faites ma journée.
ça me fait plaisir. Moi aussi, vous venez de faire la mienne parce que là, je ne savais plus quoi dire jusqu'à la fin de l'émission. Vous êtes au Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, apparemment qui a un besoin de famille d'accueil.
Oui. En fait, nos familles d'accueil on a quand même un bon réseau. Mais nos familles d'accueil sont vieillissantes et il y en a plusieurs qui désirent partir à la retraite et ont besoin de relève. Mmh. Donc, on est en campagne de recrutement. On a des besoins sur tout le territoire, dans toutes les MRC et pour toutes les clientèles également. Nos familles d'accueil accueillent en fait des enfants, des adultes, des personnes âgées. Des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, une déficience physique, qui ont un trouble du spectre de l'autisme et qui sont en perte d'autonomie dû à leur vieillissement ou encore des problèmes de santé mentale.
Ouais. Les familles s'engagent pour combien de temps? Est-ce qu'il y a un nombre d'années requis, un nombre minimal?
En fait, on souhaite, quand on les accrédite, les garder le plus longtemps possible, mais on a différentes durées de contrat. Habituellement, on signe pour une année quand que c'est nouveau pour voir est-ce que tout le monde s'adapte à son rôle, est-ce que ça convient bien, est-ce que le projet qui s'était fait correspond à la réalité. mais on peut avoir des contrats de 3 ans qui sont renouvelables. En fait, j'ai des familles d'accueil qui sont avec nous depuis 40 ans. Puis il y en a qui viennent, ils font un bout de temps, ils font quelques années, puis après ça, ils décident de réorienter leur carrière ailleurs, et c'est correct aussi.
Julie, les conditions de famille d'accueil ont changé depuis 2012. C'est un peu moins contraignant. Il y a un filet social, si on veut, une protection. Peut-être nous parler un peu de ces modifications qui pourraient en rassurer certains.
Oui, ben effectivement, les familles d'accueil sont maintenant syndiquées, sont représentées par des associations les conditions de pratique, les rétributions et tout ça, ça a changé beaucoup effectivement depuis 2012. Avant, on parlait plus de ressources. C'est souvent des mamans qui avaient élevé leur famille à la maison, puis que là, les enfants sont partis de la maison, ils veulent continuer de s'investir, donner de leur temps sans nécessairement aller sur le marché du travail. Donc, ils devenaient famille d'accueil. Maintenant, on peut faire une carrière en étant ressource de type familial. On peut vivre de ça et il y a des nouvelles rétributions qui ont été versées. Il y a des avantages sociaux que les ressources n'avaient pas auparavant. Maintenant, ils contribuent à la Régie des rentes du Québec, à la RQAP. Elles peuvent être couvertes par la CSST. Ils ont des contributions qui leur sont versées pour des vacances, pour le fonds de pension, assurance collective et tout ça. Mais donc, c'est des avantages qui n'y avait pas auparavant et qui pourraient davantage intéresser les gens.
Également, bon, faut protéger la personne qui est accueillie, s'assurer que les sommes attribuées pour, que ce soit le vêtement, que ce soit l'alimentation, que tout ça soit redonné aux gens qui en ont besoin. Moi, quand j'étais jeune, j'étais dans un pensionnat et il y en a qui restaient trop loin parce que, bon, c'était une école spécialisée pour personnes aveugles. Et il y en a qui restaient trop loin et qui étaient en famille d'accueil autour de l'école. Et souvent, j'entendais cette plainte-là de dire, moi, chez nous, ils gardent l'argent, puis ce qu'on mange, puis ce qu'on nous met sur le dos, ça équivaut pas à ce que ça devrait être.
Je connais pas ces anciennes pratiques-là. Ce qui faut faire la différence aussi, c'est que dans le temps, il y avait des familles accréditées par le public et il y avait des familles qui se lançaient dans le privé, qui prenaient des ententes directement avec les parents et c'était pas régi comme ça l'est présentement.
Mais avec les avantages que vous venez de nous mentionner, comment savoir que la famille le fait pour les bonnes raisons?
Ben, en fait, dans le processus d'évaluation, c'est pas n'importe qui peut devenir une ressource de type familial. Hein, ça prend quand même un profil, ça prend des gens qui sont au départ intéressés d'aider les gens, de venir en aide, les supporter, les faire cheminer, d'appliquer un plan d'intervention. Ça prend des gens qui sont à l'aise de travailler avec une équipe d'intervenants. Fait qu'on a tout un processus d'évaluation et au bout du processus, il y a une équipe qui se réunit puis qui décide est-ce qu'on accrédite les postulats ou on met fin à l'offre de service parce que ça convient pas.
Ouais.
Donc, les gens qui réussissent à passer au travers du processus d'évaluation, c'est qu'ils ont déjà des capacités, des aptitudes et qu'ils partagent sensiblement les mêmes valeurs que l'établissement. Donc, des valeurs au niveau du placement, que le client habite dans un milieu qui ressemble le plus possible à un milieu naturel, qu'il soit intégré, qu'il participe socialement, qu'il se développe ou qu'il maintienne son autonomie le plus possible.
Ceux qui n'ont pas de famille, où sont-ils?
Ceux qui n'ont pas de famille d'accueil?
Oui.
Présentement, il y en a qui sont encore dans leur famille naturelle. La famille naturelle est épuisée. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'une famille d'accueil. Ils peuvent être placés à temps plein ou à temps partiel. Donc, à ce moment-là, ça peut prolonger le lien du client avec sa famille naturelle. Il y en a qui sont à l'hôpital. Ils ont eu leur congé. Ils n'ont plus besoin de soins actifs, mais ne peuvent pas pour le moment retourner à la maison, par exemple.
Ouais.
Ou ils sont dans des milieux plus lourds, comme en institution, alors qu'ils pourraient bénéficier d'un milieu plus léger.
Vous êtes en pleine campagne de promotion depuis début mars?
Non, depuis la semaine passée.
D'accord.
Oui.
Et parlez-moi vite de la campagne, il me reste 30 secondes.
Oui, d'accord. Alors, on a fait un beau montage vidéo qui explique vraiment c'est quoi une famille d'accueil. Il y a des familles d'accueil qui nous expliquent pourquoi elles le sont devenues. Mm-hmm. Il y a des familles naturelles qui nous expliquent pourquoi elles utilisent une famille d'accueil. Et il y a des clients qui nous expliquent comment ils sont bien en famille d'accueil. Ah. Donc, vous pouvez aller sur notre site Internet au www.crdiat.com et vous aurez le lien là, pour visionner cette vidéo-là.
crdiat.com. Merci beaucoup, Julie Chabot.
Ça me fait plaisir.
On se retrouve pour Accès libre bientôt. Salut à ceux et celles qui ont collaboré à cette émission. Je vous souhaite une bonne fin de journée, tout le monde.